toujours sur le 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est l'heure du Canu Info du vendredi. On va d'abord vous présenter le programme. Alors, pour aujourd'hui, information d'abord locale. Il y en a très peu pour aujourd'hui. On est désolé, on a tout fouillé, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, on vous parlera quand même du vol d'un fourgon blindé. Et puis, parce qu'on vous en a parlé les semaines passées, enfin de la victoire des vacataires en lutte à l'université de Lyon. On changera ensuite d'échelle et on parlera d'informations nationales. On s'intéressera à la fameuse loi Macron et à un amendement concernant les opérateurs téléphoniques. On parlera d'une seconde victoire, cette fois-ci en lien avec les gaz de schiste, une chronique qu'on aime et qu'on défend ici. Et puis, on enchaînera ensuite sur l'échelon international. On parlera à nouveau du gaz de schiste, mais cette fois-ci concernant le terrain algérien, chronique spéciale. On parlera également d'affrontements en Turquie et d'affaires de corruption au Brésil. Et enfin, on terminera avec un envoyé spécial qui a enregistré des sons le week-end dernier au Maroc. C'était la quatrième rencontre des radios associatives entre le Maghreb et le Machrek. Et alors, on a plusieurs reportages, notamment un reportage sur une association féministe égyptienne qui fait des actions avec les bédouines du Sinaï. Et si on a le temps, on passera également un reportage sur RMBOA, une radio communautaire de subsahariens au Maroc, qui milite pour la liberté de circulation des Africains au Maroc et liberté de circulation également, évidemment, vers l'Europe, la lutte contre les discriminations, le racisme, dont ces subsahariens sont l'objet. Voilà. Et puis on terminera par l'agenda, très fourni.
Et du coup, retour au local, et on avait un peu envie de vous relayer une information qu'on a eue dans Le Progrès, qui est que des braqueurs ont volé ce mercredi en toute discrétion des dizaines de milliers d'euros d'un fourgon blindé stationné rue de la République en plein centre-ville. Et du coup, maintenant, la PJ de Lyon est chargée de l'enquête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mercredi, entre 10h et 10h30, des dizaines de milliers d'euros se sont volatilisés dans la nature, et les braqueurs avec. Alors, sans utiliser ni d'armes et sans employer de violence, ils ont dérobé cette somme qui se trouvait dans un fourgon blindé stationnant à proximité de la station Hôtel de Ville, rue de la République, en plein cœur de Lyon. Et alors, du coup, comment ça a pu se passer ça? Parce que, alors moi, j'en ai vu passer pas mal des fourgons blindés ces derniers temps et je vois pas trop comment leur prendre de l'argent. Et bien, selon Le Progrès, les convoyeurs livraient des clients lorsque des personnes auraient ouvert la porte du fourgon qui n'était visiblement pas verrouillé. Donc, ils auraient agi très rapidement avant de disparaître. Et ben du coup, ça donne envie de tester toutes les portes des fourgons blindés pour savoir si elles sont réellement fermées ou pas. Alors, on va changer de secteur et on va revenir sur la lutte des vacataires enseignants de Lyon 2. On vous en avait déjà parlé plusieurs fois à cette antenne. Et pour une fois, on a aussi un mouvement social qui arrive à avoir une première victoire. Alors, la victoire n'est pas complète, mais quand même, on avait un peu envie de vous relayer ça. Et il se trouve qu'effectivement, la grève des vacataires semble porter ses fruits. Il faut savoir que ça fait 6 mois qu'il y a un peu une crise à l'université Lyon 2. Entre les étudiants vacataires, ça veut dire des gens qui sont en thèse ou qui font autre chose et qui sont chargés de cours, notamment en licence, et la présidence. Et il y a les premiers signes d'accord qui se mettent en place. Notamment, l'université a accepté de rembourser pour l'année 2014-2015 les frais d'inscription que ses doctorants chargés d'enseignement ont dû payer. Faut quand même s'imaginer que du coup, ces personnes, elles payent 600 euros à l'université pour s'inscrire et après, elles sont payées 700 euros pour donner un TD. Ce qui a quand même un peu aucun sens de donner plus de pratiquement 80% de son salaire à son employeur. Du coup, c'est quand même une belle victoire de réussir à avoir cette exonération des frais d'inscription. La deuxième requête qui a été entendue, c'est la création d'une commission tripartite qui réunit le personnel administratif, les enseignants titulaires et les vacataires. Et du coup, cette commission tripartite, elle va négocier les conditions de recrutement avec la présidence et notamment essayer de faire que le statut de vacataire soit davantage reconnu. Et enfin, du coup, il y avait quand même une grève parce qu'il y avait des salaires qui n'étaient pas versés depuis septembre, voire pas versés pour des heures d'enseignement qui avaient été effectuées l'année précédente. notamment suite à l'absence de contrat de travail donné par la faculté Lyon 2. Et ça, c'est censé être en passe d'être réglé, mais la présidence a aussi envoyé un mail affirmant que ça allait régler, ce qui donne davantage d'engagement, même si voilà, pour l'instant, ces procédures sont en cours, il y a encore plusieurs contrats qui ne sont pas signés. Et du coup, le collectif des vacataires précaires, si ce collectif se félicite d'une première victoire, c'est quand même pas une victoire absolue. C'est quand même une victoire qui apparaît après plus de 6 mois de lutte, du coup, un bras de fer très très fort avec la présidence, plus de 6 semaines de grève de la part d'une cinquantaine de vacataires enseignants, ce qui est énorme en fait. Et la présidence n'a pas voulu plier malgré plusieurs articles qui ont pu paraître dans Le Monde, dans L'Humanité, dans Le Progrès, dans Rue 89. Et c'est vraiment la dernière action qui a été une flash mob hier, mercredi, où du coup les vacataires sont arrivés avec une quinzaine de tentes, quechua ou autres, qu'ils ont dépliées devant la présidence en disant qu'ils ne partiraient pas tant qu'il n'y aurait pas des engagements fermes pour la résolution de leur statut professionnel qui serait mis en place. Il faut savoir quand même qu'il y a encore des revendications qui n'ont pas été entendues et qui, pareil, sont pas la révolution, mais des revendications un peu de base, notamment limiter les effectifs des TD à 30 étudiants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en licence, des TD, ça veut dire des travaux dirigés, qui sont du coup censés être des heures un peu en plus petits groupes que les CM, les cours magistraux, se déroulent pour certains entre 45 et 50 étudiants. Du coup, cette demande n'a pas été entendue encore. La demande d'ouvrir plus de postes non plus. L'engagement ferme sur la tenue des TD un mois à l'avance, ça veut dire prévenir les gens qui vont enseigner un mois à l'avance si oui ou non ils vont donner cours ou pas, et pas les prévenir la veille ou les prévenir 2 semaines après le début des cours que finalement ils arrêtent. Il n'y a eu aucun engagement dessus. Et la revalorisation des taux horaires des TD au titre de la prise en compte de la charge correspondant aux tâches annexes n'a pas été prise en compte non plus. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des enseignants vacataires qui donnent cours à l'université, ces enseignants ne sont pas payés ni pour la surveillance des partiels, ni pour la correction des copies, ni pour toutes les tâches administratives qu'on leur demande d'effectuer. Et du coup, justement, ils demandent le paiement de ce travail. Et du coup, ils demandent quand même qu'on reste unis et mobilisés pour défendre les conditions d'études et de travail contre les politiques rapaces qui minent l'enseignement supérieur et la recherche. On les félicite déjà pour leur victoire et puis on espère que ça va continuer.
Hop, on va enchaîner sur la mini-rubrique nationale. Alors, je vais vous parler tout d'abord de l'amendement de la loi Macron, qui en gros stipule opérateur téléphonique, tu sauras. Alors, vous connaissez certainement le projet de loi Macron. C'est une espèce de couteau suisse de la loi qui a été inventé et imposé par le gouvernement donc le 17 février via le recours à l'article 49.3. Dans le cadre de ce projet de loi, un amendement a été adopté donc le 6 février permettant à l'ARCEP, d'imposer le statut d'opérateur. Alors l'ARCEP, ça veut dire Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. Donc ça existe depuis précisément le 5 janvier 1997. Et c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Donc il y en a une autre qui existe, qui est très connue, c'est le CSA, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc c'est un peu le même truc, mais sur dans un autre domaine. Alors je vous lis l'amendement en question, et après j'expliquerai peut-être un peu plus. Alors, lorsqu'une personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de communication électronique sans que la déclaration prévue au premier alinéa ait été faite, l'autorité peut, après que cette personne ait été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à cette déclaration. La personne concernée en est informée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, jusqu'à présent, les opérateurs type télécom se déclarer spontanément de même auprès de l'ARCEP et donc du coup l'ARCEP les inscrivait dans sa base de données qu'ils ont appelée BASIL, et une fois là-dedans ces organismes là sont soumis à plusieurs obligations. Alors Donc avant, si l'ARCEP voulait imposer à un fournisseur d'intégrer sa base, il devait passer par des procédures juridiques. Donc c'était compliqué, long, et ça marchait généralement pas. Et du coup, ils ont simplifié la chose, donc avec cet amendement. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc là, dans ce cas-là, la SERP intègre qui elle veut comme elle veut. Et si l'organisme veut contester, c'est à lui d'enclencher des procédures juridiques pour sortir de la base. Alors cette simplification a été mise en place en invoquant la régulation de la concurrence. Mais en fait, ça implique bien d'autres obligations, dont notamment une assez gênante, celle des écoutes. Donc en effet, les organismes intégrés à l'ARCEP doivent rendre leur service écoutable par la police française. Alors, dans cette histoire, la SERP vise particulièrement un truc que beaucoup de gens connaissent, j'imagine, qui s'appelle Skype. Et en effet, depuis 2007, elle informe régulièrement le procureur de la République de Paris du fait que Skype seront coupables d'une infraction pénale en ne se déclarant pas en tant qu'opérateur de communication électronique. Et donc avec cet amendement, alors jusqu'à présent en fait, ça a jamais pu aboutir. Et donc là, maintenant avec cet amendement, pas de souci, Skype va être direct intégré. Mais alors après, il faut savoir, c'est là, bon, je parle de Skype parce que a priori c'est le gros truc avec la SERP. Mais en fait, il y en a d'autres. C'est pas le seul service de communication qui est en ligne de mire. Il y en a d'autres aussi, des gros trucs, par exemple de Google, Hangout. Il y a WhatsApp et ou Facebook Messenger par exemple, qui pourraient être également concernés. Alors après, qu'en est-il vraiment de ces écoutes? Parce que bon, c'est quand même un des points noirs. Chez Microsoft, celui qui détient Skype, lui il dit de toute façon, à chaque conversation, il y a deux clés de chiffrement aléatoires, inconnues de Skype, qui sont créées. Autrement dit, impossible a priori d'écouter les écoutes. Sauf que. On se souvient ou pas d'ailleurs qu'une version spéciale de Skype avait été distribuée en Chine, parce qu'eux ils aiment bien aussi écouter, afin de pouvoir surveiller les communications. Donc ça c'était en 2013. Alors on se dit pourquoi pas en France alors surtout que c'est quand même le gros trip des services de police de pouvoir écouter les communications internet comme ils peuvent le faire pour les téléphones classiques. Et en plus avec toutes ces histoires de Charlie, ça risque de précipiter un peu plus les choses. Donc voilà, c'était concernant cet amendement qui enfonce encore plus le clou sur toutes ces procédures de surveillance d'Internet. Je crois qu'il y a un truc aussi qui va être voté le 19 mars, un peu là-dessus. J'ai pas plus de détails, donc je n'en parlerai pas. Voilà.
Enchaînons donc sur la rubrique gaz de schiste.
Voilà, on va entamer une rubrique gaz de schiste. Très cher à mon cœur. Et du coup, on va rester en France pour l'instant.
Et victoire.
Alors voilà, une victoire. Une victoire. Alors une victoire, vous allez voir, peut-être que ça vous fera rigoler, je ne sais pas. C'est pas non plus une grosse victoire, mais c'est quand même une petite victoire. Donc voilà, on fait une victoire, mais alors... Non, mais ça a été très dur, puisqu'il a fallu quand même 3 ans et demi de lutte. Des heures de recherche, d'études des dossiers, d'informations publiques, de mobilisation, de manifestations, alors dans plein d'endroits, comme alors peut-être vous les connaissez ou pas, à Lanthenay, Saint-Julien-Genevois, Bourg-en-Bresse, Nantua, Aix-les-Bains, Nantua, Saint-Claude, Bellegarde, des soirées, des nuits, des week-ends entiers, passés pour la lutte contre ce maudit gaz de schiste. Alors qu'est-ce que c'est que cette victoire? Eh ben c'est le non-renouvellement d'un des nombreux permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures qu'on appelle PERH. Donc celui qui n'a pas été renouvelé, c'est celui des moussières. Donc moussières, c'est je sais pas si vous savez où c'est. C'est entre à la frontière de l'Ain et du Jura. Donc c'est dans le nord du Jura, vers le pays de Gex, tout ça. C'est par là-bas. Oui, donc alors, cette histoire de permis exclusif de recherche d'hydrocarbures, en fait, c'était un peu le tour de passe-passe du gouvernement, puisqu'il y avait eu l'interdiction d'exploitation, mais qui n'incluait pas vraiment, c'était un peu flou, les exploitations qu'on peut appeler de prospection. Donc voilà, donc il y a eu ce fameux permis là qui n'a pas été renouvelé, donc ça a été un peu la croix et la bannière. Mais attention, la vigilance est de mise, car il n'est pas exclu que l'ex-titulaire du PERH fasse un recours, parce que du coup, voilà, et du coup qu'il l'obtienne quand même. Et puis surtout, en fait, la lutte là-dessus continue, car en fait, il y a encore beaucoup de demandes de permis qui sont en attente de renouvellement. Donc notamment il y en a à Bly qui touche les départements de l'Indre, l'Isère, du Rhône, des Pays de Savoie. Concernant ces demandes, en 2011, elle avait été clairement identifiée par le ministère en charge de l'écologie comme une demande ciblant directement le gaz de schiste. Donc voilà, il y a la demande du permis de GEX Sud, du permis de GEX et plein d'autres encore, qui continuent à poser problème et qui globalement font l'objet d'un large rejet de la part de la population. Alors en fait, ce qu'on peut espérer de cette victoire, donc juste pour info, il y a à peu près encore un peu plus d'une dizaine de permis qui sont en attente de renouvellement entre le Rhône, entre la région Rhône-Alpes et Franche-Comté. Donc en fait, on espère surtout que cette victoire de non-renouvellement fasse écho et puis fasse en sorte que les autres demandes de renouvellement ne soient pas acceptées. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais.
Très bien. Tout ceci nous fait glisser jusqu'à l'étude du schiste en Algérie et des mouvements qui se mènent contre.
Oui, voilà. Alors, attendez, parce que je me mélange un peu encore, comme d'habitude, dans mes feuilles. Alors, oui, alors parce que du coup, il y a depuis surtout janvier, il y a une très forte lutte en Algérie. Donc, je vais vous donner quelques news, on en a parlé un peu régulièrement dans ce Canu Info. Si vous écoutez régulièrement, vous serez déjà tous au courant. Alors, donc c'est un mouvement qui a pris énormément d'ampleur depuis début janvier donc 2015, qui a pris, très bref historique, qui a pris naissance dans la ville d'Insala, dans le sud algérien, qui représente, donc la ville d'Insala, qui représente actuellement le cœur de la lutte contre le gaz de schiste en Algérie. Donc pourquoi elle représente le cœur de la lutte? Elle est surtout très proche des premiers puits expérimentaux et de la région d'Anet, qui est une région dans laquelle sont prévus plusieurs autres puits d'exploitation. Donc la mobilisation est très très forte là-bas, et donc dernièrement, donc à Insala, plus exactement le 28 février, 1er mars et 2 mars, il y a eu plusieurs manifestations qui se sont très très mal passées, puisqu'elles ont été fortement réprimées très durement par l'armée, provoquant un mort et plusieurs dizaines de blessés. Alors suite à ces affrontements, il y a eu, on pourrait appeler une espèce de cessez-le-feu entre l'armée et les opposants au gaz de schiste. Donc les manifestants auraient obtenu la garantie de pouvoir manifester sans se faire tabasser ou même tuer, et même de pouvoir réoccuper la place qui se situe devant le siège de la Daïra. Donc Daïra, c'est l'équivalent de la sous-préf. Alors, pourquoi je parle de cette place? Parce qu'en fait, c'est une place qui est assez symbolique. Depuis le début du mouvement là-bas, il y a des rassemblements quotidiens, donc depuis janvier. Et elle a d'ailleurs été renommée par les personnes là-bas, la place Somoud, je sais pas si je le prononce bien, qui veut dire résistance. Et c'est aussi, donc dernièrement, c'est aussi en voulant faire évacuer cette place que l'armée a provoqué le début des affrontements. Alors je rappelle quand même que depuis le début de ce mouvement de contestation, il y a déjà eu deux morts qui ont été liés officiellement à cette contestation contre le gaz de schiste. Le premier étant tué par une grenade donc début janvier, Et donc le deuxième, qui est mort asphyxié par des gaz lacrymogènes. Donc voilà. Alors cette espèce de trêve qui a été un peu donc ça s'était passé le 3 mars. Donc cette espèce de trêve en fait règle pas vraiment le souci par rapport au gaz de schiste là-bas, puisqu'en fait les autorités refusent toujours le moratoire sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste demandé par les opposants qui redoutent donc essentiellement la pollution des eaux du sous-sol saharien, vu que l'eau c'est quand même un point relativement important là-bas. Donc voilà, pour ce qui est un peu des nouvelles de la lutte contre le gaz de schiste en Algérie.
Et alors du coup, on va changer un peu de région et un peu de registre, puisque là, on va aller en Turquie, où plusieurs villes, dont Istanbul, ont été le théâtre d'affrontements mercredi entre forces de police et militants, réunis à la mémoire d'un adolescent mort il y a un an. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc la police est intervenue mercredi dans plusieurs villes pour disperser des rassemblements à la mémoire d'un adolescent mort il y a un an, devenu un emblème des opposants du président Erdogan, dont on vous parle régulièrement, pour notamment son conservatisme. Alors à Istanbul, les forces de l'ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau contre des groupes de militants armés de pierres et de cocktails Molotov. Les affrontements ont eu lieu dans le quartier Dokmeydani, dont la victime, Berkin Elvan, était originaire. Selon les médias turcs, quelques manifestants ont été arrêtés à Istanbul alors qu'ils tentaient de se réunir dans le parc Gezi. La destruction annoncée de ce jardin public sur la place Taksim avait donné le coup d'envoi fin mai 2013 à une vague de protestations sans précédent, dont vous avez sûrement entendu parler, qui avait fait tanguer le régime au pouvoir depuis 2002. Dans la capitale, qui est Ankara, la police a repoussé avec des canons à eau quelques centaines de personnes qui réclamaient justice pour la victime. 11 d'entre elles ont été interpellées, selon la presse locale, et des manifestations se sont déroulées dans une vingtaine de villes. Alors, qui était réellement cet adolescent ? Donc, il était âgé de 15 ans, puis ce jeune homme avait été grièvement blessé à la tête en juin 2013 par un tir de grenade lacrymogène, alors qu'il sortait chercher du pain pendant une intervention de la police dans son quartier. Donc, sa mort, qui a eu lieu le 11 mars 2014, après un coma de 269 jours, avait entraîné des mobilisations contre le gouvernement du Premier ministre de l'époque, qui était Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui chef de l'État. Sa mort est devenue un symbole de la violente répression du pouvoir, qui a fait 8 morts et plus de 8000 blessés. Aucun policier n'a été mis en cause dans la mort du jeune homme, qu'Erdogan avait publiquement qualifié de terroriste à l'époque. Sa famille a réclamé au ministère de l'Intérieur 1 million de livres turcs, donc ça fait environ 350 000 euros de dommages et d'intérêts. Le Parlement turc examine depuis plusieurs semaines un projet de loi très controversé qui renforce les pouvoirs de la police, notamment lors des manifestations. L'opposition estime que ce texte allait faire de la Turquie un état policier. Donc voilà, pour rappeler qu'en France comme ailleurs encore, la répression est mise et la police tue.
Très bien. Alors, enfin très bien. on change de continent. Là où la police tue énormément, d'ailleurs aussi au Brésil, il y aurait, c'est une transition d'ailleurs toute trouvée, à peu près 6 personnes qui meurent tous les jours sous les coups de la police. Et au Brésil, en ce moment, il y a sans doute le plus gros scandale depuis l'époque des colonels, donc des années 70, plus grosse affaire de corruption. Qui vient d'éclater. Alors en fait, elle a été révélée, cette affaire de corruption, par la presse brésilienne il y a tout juste un an, en mars 2014. Et depuis vendredi dernier, vendredi 6 mars, la Cour suprême du Brésil a donné son feu vert pour qu'une enquête s'ouvre sur l'implication de dizaines de parlementaires dans une affaire de corruption. Alors, qu'est-ce que cette affaire de corruption ? Qu'est-ce que ce scandale ? On va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Alors, ce scandale, il touche deux grandes catégories d'individus qui sont liés. Les grands acteurs économiques du pays, d'un côté, et de l'autre côté, des personnalités politiques, actuellement au Parlement, des sénateurs également, et puis des proches du parti au pouvoir et du parti de centre-gauche avec lequel gouverne l'actuelle présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui entame son second mandat depuis le 1er janvier 2015. Alors, côté grands acteurs économiques, on trouve notamment la plus grande entreprise du Brésil, Petrobras, qui est une entreprise qui travaille, comme son nom l'indique, dans le pétrole et qui est contrôlée en partie par l'État. À cette grande entreprise Petrobras, à côté plutôt de cette grande entreprise Petrobras, on trouve également les géants du BTP du Brésil. Et ensemble, ils travaillent pour de grands chantiers d'infrastructures au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? En fait, Petrobras lance des appels d'offres auxquels répondent les géants du BTP qui auraient formé un cartel, c'est-à-dire une entente, pour se partager les marchés de Petrobras et les surfacturer. Une fois que ces marchés sont surfacturés, eh bien, les marchés sont donc acceptés par le politique. Et des pots de vin, comme souvent, sont reversés aux politiques qui travaillent main dans la main avec les grandes entreprises brésiliennes. Alors, ces pots de vin, quand même, ils existeraient, et ces trucages de marché existeraient depuis au moins 1997. Ils auraient donc fonctionné sous Lula, sous Rousseff actuellement, mais également sous la présidence de droite à la fin des années 90, au début des années 2000. Et il y aurait eu quand même pas moins de 33 milliards de dollars de pots de vin qui auraient été reversés à la fois à des industriels particuliers, mais également à des hommes politiques. Concernant les hommes politiques, ces pots de vin auraient notamment permis de financer les campagnes électorales depuis le début des années 2000, et quasiment tous les partis brésiliens en auraient bénéficié, et notamment celui qui en aurait sans doute bénéficié le plus, c'est l'actuel parti des travailleurs, le PT, hein, le fameux parti de Lula, aujourd'hui de Dilma Rousseff, au pouvoir. À côté de ce parti, d'autres partis en auraient profité, donc le parti du mouvement démocratique, parti du centre avec lequel gouverne le parti de gauche des travailleurs, qui est au pouvoir donc, et puis le parti progressiste, le parti de droite. Bref, tous les partis politiques brésiliens auraient a priori bénéficié de ces pots de vin. Donc depuis le 6 mars et le début officiel de l'enquête, après le feu vert de la Cour suprême, il y a en tout 49 hommes politiques qui sont visés, dont 12 sénateurs et 22 députés. Et la présidente, me direz-vous, Dilma Rousseff, eh bien, la présidente donc réélue en octobre 2014, qui entame son second mandat depuis janvier 2015, n'est pas citée par le procureur général de la République, mais son nom est sur toutes les bouches, puisque son action dans tout ce dossier semble plus que louche. Sous Lula, elle était ministre de l'énergie, donc ministre de tutelle de la compagnie Petrobras, qui appartient en partie, qui était autrefois une entreprise nationale, mais qui est toujours en partie une entreprise d'État, la plus grosse entreprise brésilienne, donc comme je le disais tout à l'heure, spécialisée dans les hydrocarbures. Et étant donné qu'elle était ministre de tutelle de la compagnie Petrobras, elle était présidente du conseil d'administration de Petrobras. Donc il y a peu de chances qu'elle n'ait pas été au courant. Voilà, alors on va terminer en se demandant qui mène cette enquête. Eh bien, cette enquête est actuellement menée par un petit juge de province, Sergio Moro, par la police fédérale et enfin par une commission parlementaire qui a été désignée récemment. Et tout ceci nous a fait penser à un petit titre de Michel Fugain sur les gentils
et les méchants.
Qui c'est qui est très gentil ?
Les gentils.
Qui c'est qui est très méchant ?
Les méchants.
Qui a tous les premiers prix ?
Les gentils.
Qui roupille au dernier rang ?
Les méchants.
Qui fait des économies ?
quitte l'antipathie. Ils font l'amour le samedi. Ils font ça n'importe quand, les méchants.
Enchaînement vers des reportages qu'un super envoyé, une super envoyée spéciale nous a envoyé du Maroc. Alors elle était ce week-end, comme on le disait tout à l'heure, aux 4e rencontres des radios associatives du Maghreb et du Mashrek. Le Mashrek, c'est l'Afrique du Nord-Est. Et elle a rencontré plusieurs personnes là-bas, et notamment des gens qui font de la radio, et puis également d'autres personnes. Alors, en premier reportage, on va aller à la rencontre d'une association féministe égyptienne qui fait des actions avec des bédouines du Sinaï, autour notamment de leurs droits. Voilà, donc on va pas en dire trop, et puis on va laisser ces gens-là parler.
Asma Slimani, directeur exécutif. Ah, la Ligue tunisienne, la Ligue féminine pour les droits de l'homme.
Où ça ?
Fémasr, en Égypte.
Et qu'est-ce qu'elle fait du coup cette ligue féminine? Quelles sont les actions du coup que vous mettez en place?
Leur action est accentuée sur la société civile et plus exactement avec les femmes badawis. Elles ont 4 programmes. Le premier concerne la femme. Et dans le cadre de ce programme, elle accentue leur travail sur les femmes en temps de guerre. Donc, entre autres, elle recherche les failles ou les excès que subissent les femmes avec la répression et tout. Elles ont aussi un programme contre la violence.
وعندنا برنامج لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في ظل النزاعات المسلحة.
Elles ont aussi un programme pour défendre les défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en général.
Est-ce qu'elle peut nous parler plus, alors elle nous l'a déjà expliqué tout à l'heure, mais des actions précises du coup qu'elle met en place auprès des femmes bédouines ou auprès...
كأنشطة بالضبط معناتها بالنسبة للنساء البدوية.
إحنا بدأنا العمل مع الستات البدويات من 2007.
Elles ont commencé le travail avec les femmes badawi depuis 2007.
عملنا فيلم تسجيلي عن حقوق النساء البدويات الاقتصادية والاجتماعية مرفق بدراسة عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
Elles ont fait un court-métrage pour faire le portrait de la situation des femmes après, en plus de quelques recherches et des recherches en général. Donc dans ces reportages, c'est les femmes badawi elles-mêmes qui font l'état des lieux de leur situation.
عملنا كمان دراسة تانية عن النساء والاقتصاد غير المنظم والستات في الأعمال المهمشة.
Elles ont fait une étude avec concernant les femmes bédouines et le fait de travailler dans les rues sans autorisation, donc pour vendre des et tout.
عملنا عدة ندوات وتدريبات حوالين حقوق النساء, تدريب النساء أنفسهم على حقوقهم.
Ils ont fait des ateliers concernant comment les femmes peuvent se défendre et faire valoir leurs droits.
واشتبكنا بالضغط في عمليات ضغط مع الستات في مواقف بعينها زي اقتحام منازل فيها ستات او انتهاكات بتحصل للنساء نفسهم.
Donc elles ont appris aux femmes comment faire face quand les autorités ou entrent dans leur maison pour faire des choses ou faire des perquisitions.
وقمنا بحملة لوقف العنف ضد النساء في ظل النزاعات المسلحة وطالبنا الدولة المصرية بحماية النساء فترة النزاع.
Elles ont fait une campagne pour arrêter la violence contre les femmes. Elles ont fait appel aux autorités pour qu'ils fassent leur travail pour que ce phénomène s'arrête.
عندنا كمان جزء من برنامج المرأة في نوع من جلسات الاستماع اللي هي المرأة جلسات الاستماع. وفيها المرأة بتحكي عن مشاكلها بنحاول إيجاد حلول ليها.
Donc elles ont fait des réunions fermées où les femmes, chaque femme se lève et parle de son expérience et de ses problèmes en particulier.
بس هي جواها تبقى عايز تقول حاجة. كلام.
هي عندها كلام مش تقول. تريد ان تقول شيئا.
ايوه. اللي بيعبر عنها بيقول كلام مخالف اللي هي عايز تقوله.
Donc elles sont confrontées à un problème, c'est que dans certains tribunaux officiels, les femmes ne peuvent pas porter plainte. Donc c'est le rôle du mari ou de quelqu'un de la famille pour porter plainte à sa place. Mais dans certains cas, il y a un problème, c'est que ce mari ou ce fils déforme ses propos volontairement. Donc ça crée des problèmes pour la femme.
Et par exemple, dans quel cas? Moi, il y avait deux questions par rapport à ce qu'elle disait tout à l'heure. C'était, elle a parlé à un moment des violences que les autorités pouvaient faire quand elles entraient dans les maisons des femmes ou des hommes, mais du coup, là, en l'occurrence, c'était des femmes. Du coup, est-ce que c'est arrivé régulièrement que les autorités pénètrent dans les maisons privées et potentiellement soient actrices de violence? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est pas...
Donc, ouais. J'ai pas compris exactement. Par rapport aux autorités qui pénètrent dans les salles, dans les maisons.
Dans les maisons.
Pour incarcérer, pour prendre les hommes comme ça.
Oui. C'est ça, donc qui prennent les hommes et qui potentiellement
c'est quoi la question maltraitent. C'est quoi la question exactement?
Et bah, du coup, c'était ça. Est-ce que j'avais bien compris?
Oui,
du
c'est
coup,
ça.
Ils viennent chercher, du coup, ils viennent chercher les mecs
potentiellement. Oui, c'est ça, oui. Okay.
Et du coup, là, les femmes, si elles voulaient porter plainte, c'était pour elles, pour des abus à côté ou c'était pour se débrouiller, elles?
Non, pour concerner. Des abus la concernant.
Ok.
Dont elles ont été victimes.
Ok. Donc des viols, des violences. Ouais, 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 ouais.
Peu importe.
Physique ou...
Peu importe. Okay. Peu importe.
C'est quelque chose qui a eu lieu là pendant toutes les. Enfin, qui a lieu encore aujourd'hui. C'est quelque chose que, elle, au niveau de la situation, quand t'as dit qu'il y a eu un documentaire qui a été fait et que les femmes bédouines ont parlé du coup de leur situation individuelle, personnelle, etc., c'est quelque chose qui a eu lieu de manière très récurrente.
قلت لك ملي عملت تشريع وثائقي نتاع حالات النساء اللي تعرضوا معناها هما يحكيوا على تجاربهم وكل الحاجات هذه مازالت صايره لتوا ولا ما عادش؟ معناها مازالت حاجه موجوده لتوا لحالات هذوما؟
مالهم بقى؟ انا فهمت عايز تتكلم مع الستات اللي هما ليهم حالات في القضاء العرفي.
وقلت لك ملي قلت لي عملت معناها جلسات ونساء مش جلسات على وثائقي قلت لي ملي عملت فيلم. على النساء تحكي على شنو صار وشنو صار لهم بالضبط وكل قتلي ولا الحاله هذه مازالت مستمره لتو ولا قديمه؟
هي مستمره بس هو الفيلم انتاج 2010.
لا الحالات اللي صايره في البلاد معناتها مازالت مستمره. دونك لو كان اي انكور ريكورون اي نا با سيسي.
هو الفيلم على الانترنت مترجم انجليزي ممكن ابقى اديها لينك.
نعم
الفيلم مترجم انجليزي.
شو اسم الفيلم على الانترنت؟
نساء بدا النساء في مدينة سيناء.
Donc le film dont elle a parlé il est disponible sur internet et le titre c'est en arabe ou en français le titre?
En arabe et en français.
En arabe c'est Anissé
fi bedeït Sénia.
Anissé fi bedeït Sénia. Les femmes bédouines à Sina.
Ok, Assiné, c'est le nom de la ville du coup.
Exactement.
Dans laquelle elle... Ok, c'est où? C'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest?
Oui,
c'est où,
Chamel, Assiné, oui, j'ai fait. C'est
l'est-ouest?
À gauche.
À gauche, est, ouest, ouest.
Ouest. C'est, okay. C'est à l'ouest de l'Égypte.
Ok, dans le désert, dans... donc du coup, c'est à la frontière avec. C'est où exactement?
مع حدود مع انا مع الحدود
هو
مع الحدود في اسرائيل وقطاع غزه avec les frontières avec Israël et Gaza.
Oh, OK, d'accord. OK. J'avais juste de voir un peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter parce que là du coup comme
on عندك ما تضيف؟
عندي.
حاب ما تقول ما تضيف حاجه اخرى تقول حاجه اخرى؟
لا لا مسي.
OK. Et شكرا.
Donc
la radio des Canus.
La radio des Canus, mais pas nu hein. Voilà, donc on peut commencer. En plus les gars, ils étaient dans le texte.
Voilà, petit bug de fin, mais sinon c'était fort intéressant. Alors deuxième reportage cette fois-ci. À travers ce deuxième reportage, on va nous présenter Air Mboa, une radio communautaire de subsahariens au Maroc. Ces subsahariens donc installés momentanément ou depuis longtemps ou depuis toujours au Maroc militent pour la liberté de circulation des Africains dans ce pays et vers l'Europe, et luttent en même temps contre les discriminations et le racisme dont ils sont l'objet. Voilà, donc deuxième reportage.
Donc, la radio des Canus.
La radio des Canus, mais pas nu. Hein. Voilà, donc on peut commencer. En plus, les gars, ils étaient dans le textile, donc ils fabriquaient des caleçons.
Mais donc ils étaient certainement pas nus.
Pas nus, voilà. Bon, c'est bon, c'est enregistré.
Ça s'enregistre, j'ai toutes tes bêtises.
Aïe. Bon, ok.
Alors, comment tu t'appelles?
Moi, je m'appelle Armel Djatch, ou bien Djatch Armel, pour rester sur le truc africain, parce que moi, je suis un Africain, 100% de père, de mère, même des connaissances. Je suis Africain. Et voilà.
Alors, est-ce que tu peux me décrire pourquoi vous avez monté cette radio-là au Maroc, voilà. Et quelle est sa...
Là, on touche, donc le nerf du problème. C'est-à-dire, la radio elle-même a été pensée parce que d'abord, nous avons constaté qu'il y avait de la xénophobie dans le Maghreb en général, dans le Maroc en particulier, parce que nous y vivons. Alors, on s'est dit que puisque le média ici n'en parlait pas beaucoup, et que finalement, on était entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre un pays qui est pratiquement xénophobe, qui est le Maroc, et de l'autre côté, d'autres pays aussi européens qui sont pratiquement pour moi la même chose, xénophobes aussi. Et donc on a des subsahariens à l'intérieur qui qui sont vraiment dans l'impasse. Ils ne peuvent ni avancer, ni reculer, et ils se font égorger de part et d'autre, que ce soit du côté de l'Europe ou que ce soit du côté du Maghreb, sans qu'il y ait personne qui en parle. Et puis même quand on en parle, c'est souvent un fond un peu dérisoire, on se moque un petit peu, on se fout un petit peu de leur gueule, ce qui fait que personne ne prend le sujet au sérieux. Et donc nous avons pensé qu'il fallait qu'il y ait un média venant de ces migrants eux-mêmes. Et c'est comme ça que le projet est né. Alors on va nous demander par exemple comment est-ce que le projet a su tenir, comment le projet est supporté. Je vais simplement dire que je suis l'initiateur du projet, je suis Armel Djatché, comme j'ai dit tout à l'heure, et je suis un ingénieur en réseau télécom et également un web designer, webmaster. Donc c'est en cumulant mes compétences dans tous ces domaines que j'ai pu mettre sur pied une radio fonctionnelle sur le web, et j'ai fait appel à mes frères et concitoyens qui avaient la même vision que moi, pour venir aider à ce que cette radio soit finalement la voix des subsahariens au Maroc. Aujourd'hui, c'est le cas. Nous sommes aujourd'hui au forum des associations, des radios associatives, qui, n'est-ce pas, a été présidé par Assoua Tona, qui avait remarqué notre projet et qui nous avait soutenus dans ce sens-là. Aujourd'hui, nos efforts ont été récompensés dans le sens opérationnel, mais le combat continue dans le sens pratique. Nous avons aujourd'hui, après la régularisation du Maroc, beaucoup de subsahariens qui ont été refoulés. Nous ne voulons pas jeter le tort sur le gouvernement ou sur qui que ce soit, mais nous avons une mission, c'est de suivre les nôtres, où qu'ils soient, en Afrique, surtout ici au Maroc, pour en fait leur donner une certaine clarté, une certaine vision, un certain sens, pour donner un certain sens à leur vie. Donc ce n'est que pour ça que nous sommes obligés de leur suivre, mais après, qui a raison, qui a tort,
Nous sommes comme des parents qui avons des enfants. Parfois, certains sont bien, d'autres ne sont pas bien, mais on ne va pas les jeter à la poubelle. Donc, on va les suivre. Et c'est la prochaine mission que nous avons actuellement. Voilà.
Est-ce que tu peux me décrire alors du coup la situation au Maroc? Parce que là, du coup, les auditeurs vont être en France. Ils ne connaissent pas obligatoirement la situation marocaine des subsahariens au Maroc. Alors, qu'est-ce que tu dis merci au roi pour la régularisation, etc.
Ouais.
Sur ces derniers mois, est-ce que tu peux nous décrire l'actualité du coup sur la régularisation, puis sur l'annonce de non-régularisation qui a suivi, et puis sur potentiellement, tout à l'heure on parlait du 10 février. Voilà, si tu peux nous en parler un petit peu, si ça, voilà, si ça te va.
Donc déjà, quand j'ai dit tout à l'heure lors de mon allocution, merci au roi, c'est parce qu'effectivement l'année dernière, pendant toute la durée de l'année, c'est-à-dire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, le roi avait ordonné à ce que tous les étrangers sur le territoire marocain soient régularisés. Donc, est ce qu'on appelle un titre de séjour valable pour un an. Voilà. Donc, à ce titre-là, comme j'ai d'abord pris l'exemple pour les personnes avec qui je travaille, tout le monde a eu sa régularisation. Ça, c'est le fait, c'est vraiment ça, c'était magnifique.
Est-ce que ça autorise à travailler?
Oui, ben, quand vous avez une carte de séjour, vous êtes régulier, vous pouvez à ce moment-là postuler à tout ce que la carte peut vous offrir. Comme on dit, ce document est délivré pour servir et faire valoir ce que de droit. Voilà, donc c'est un document, ça vous donne les droits et tout. Vous pouvez créer des comptes bancaires, vous pouvez faire pratiquement tout, hein, sauf que c'est, comme on dit, c'est un titre de séjour, c'est une carte d'identité, mais pour les étrangers. Voilà, donc après, je pense qu'il y a une différence. Là, il faut rentrer dans la loi. Je ne connais pas vraiment trop. Je préfère laisser ça aux spécialistes. Donc, comme je disais, ce côté, tout le monde normalement devrait être régularisé, mais après, les conditions n'ont pas vraiment permis à ce que tout le monde soit régularisé. Ce qui fait que...
C'est quoi les conditions?
Alors, les conditions, il y avait 5 conditions. Il y avait d'abord la première condition, il fallait prouver que vous avez fait 5 ans ou plus sur le territoire marocain. La deuxième condition, il fallait...
Donc des preuves écrites?
Oui, des preuves, peut-être un Western Union que vous avez reçu, dont vous avez un reçu pour ça, je sais pas, une carte téléphonique que vous avez achetée une certaine année, peut-être si on a mis la date, bref, quelque chose qui va justifier que vous êtes là, ça fait... c'est pas que vous-même vous écrivez, non, c'est un document que vous allez produire qui justifie que vous êtes là au moins, vous êtes là depuis au moins 5 ans. Deuxièmement, vous devez montrer, par exemple, que vous êtes marié avec une Marocaine. Si vous arrivez à démontrer que vous êtes marié avec une Marocaine, donc le document à l'appui, c'est-à-dire acte de mariage, et alors là, vous êtes aussi éligible pour avoir la carte. Troisième cas, vous pouvez être quelqu'un qui vit avec une autre, qui est marié dans... Vous êtes un étranger, vous êtes marié avec une autre personne étrangère, mais vous avez déjà vécu ensemble au moins 2 ans sur le territoire marocain. Là aussi, vous étiez éligible. Je ne sais pas, 2 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Là aussi, vous étiez éligible. Et après, il y avait aussi ceux qui avaient des maladies qui doivent durer une certaine année. Peut-être vous êtes malade et il faut peut-être 6 mois ou 1 an, je crois, pour vous soigner. On vous donnait aussi la carte. Voilà, donc c'était un peu ça. Je pense qu'il y a un critère peut-être que j'ai oublié. Je pense que c'était le critère au niveau d'une personne qui a fait des enfants avec une fille marocaine. Bon, je peux pas vraiment me prononcer, mais on va laisser ce côté. Donc, voilà un peu, il y avait des critères. Voilà. Et après, même par la suite, il y a eu on a allégé les critères pour les femmes. Hein. Donc, à un moment donné, on a dit que les femmes pouvaient, toutes les femmes, pouvaient faire oublier ces critères-là. La troisième question que vous avez posée était qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui après la régularisation, qu'en est-il? Donc nous sommes actuellement encore dans un autre combat qui est celui de nos frères qui ont été, je vais dire déportés de leur forêt. Bon, j'appelle aujourd'hui leur forêt, bon, parce que c'est là-bas qu'ils ont l'habitude de rester. Donc on les a délogés et actuellement, d'après un communiqué que nous avons reçu d'une association qui s'appelle GADEM, on les aurait redistribués dans les villes. Maintenant, nous n'avons pas pu suivre ce dossier. tout simplement parce que voilà, nous sommes une radio communautaire, on n'a pas tous les moyens, la logistique qu'il faut pour pouvoir suivre. Mais nous ne comptons pas laisser les choses ainsi. C'est-à-dire, nous comptons, même si c'est tout doucement, pouvoir atteindre nos objectifs en allant voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'ai bien dit que le Maroc, quand je suis arrivé, me semblait hyper raciste et que récemment déjà, il y a eu beaucoup de changements. Alors, un changement, ça se fait pas radicalement. Un changement, ça prend du temps. Mais moi qui étais là avant et qui constate aujourd'hui, je peux donc vous dire qu'il y a eu une nette évolution dans la moralité marocaine. Parce qu'avant, quand j'étais arrivé, même les Marocains ne connaissaient même pas les pays d'Afrique subsaharienne. Lui, quand il parlait d'histoire, c'était les histoires qui se passent en France ou aux États-Unis ou je sais pas où. Mais quand tu commences à lui dire, il pouvait même te dire le Mali, mais il peut pas te montrer le Mali sur une carte. Alors qu'aujourd'hui, non. On voit qu'ils sont vraiment intéressés et que voilà, ils répondent à des choses. De toute façon, ils ont même beaucoup d'amis subsahariens. Je pense que c'est après ça devient une volonté politique. Après, ça devient une volonté politique parce que je vois beaucoup de Marocains aujourd'hui qui ont beaucoup d'amis subsahariens. Donc, moi, je vis au Maroc maintenant sans plus me soucier de savoir si c'est le Maroc, si c'est pas le Maroc, qu'est-ce qui a fait quoi. Franchement, je suis comme chez moi. Voilà. Sauf que, bien sûr, on sait que le combat n'est pas terminé. Il y a encore, des gens qui continuent à aller dans le sens xénophobe malgré tous les efforts qu'ils ont faits. Peut-être qu'ils vont jamais changer. C'est l'homme, on peut pas faire autrement. Peut-être qu'ils vont jamais changer, mais on va toujours continuer à essayer d'éduquer, à essayer d'échanger. Et voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le soutien indirect du gouvernement, parce que avec tous les événements culturels qui se font ici, automatiquement, notre tâche devient beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est ce que je peux dire.
Ça va vers un sens positif.
Ça va vraiment dans le Maroc évolue dans le sens positif. Bon, je voulais même dire contrairement à ses voisins, mais comme je n'ai pas visité les voisins et que je n'ai que des échos, bon, je préfère rester sur le cas du Maroc où je vis actuellement.
D'accord. Voilà. Ok. Ben, je te remercie.
Ben, c'est moi qui remercie la radio Canu sur Lyon. Nous espérons que les subsahariens qui vivent à Lyon sont tranquilles parce que même en France. C'est pas facile.
C'est pas gagné, non. C'est pas gagné, il voilà. Y a du boulot encore.
Il y a du boulot, voilà.
Sacrément de boulot.
Voilà.
Et ben, je te remercie.
Voilà, c'est moi qui vous remercie.
Eh bien, merci du coup à notre super reporter qui était au Maroc pour tous ces reportages. Et du coup, pour finir ce Canu Info du vendredi,
passons à l'agenda.
À l'agenda. Et alors, une fois n'est pas coutume, on va vous parler d'un truc qui se passe à Marseille. Parce qu'à Marseille, depuis quelques années, ils ont créé, enfin en tout cas depuis 3 ans, un carnaval indépendant de la Plaine et de Noailles, et qui fait l'objet l'année dernière en tout cas d'une énorme répression policière et judiciaire. Alors que c'est quand même que un jour par an, que ça pourrait être tous les jours, et que c'est vraiment un charivari festif qui permet aux gens d'aller dans la rue et de faire un peu ce qu'ils veulent de manière festive une fois par an. Donc on vous invite au Carnaval de Marseille, dimanche le 15 mars, qui promet d'être grandiose et notamment en réponse à la répression policière qui a eu lieu l'an passé. Alors, pour revenir sur Lyon, si jamais vous n'arrivez pas à choper des Ouigo pour aller à Marseille ou faire du stop, vous pouvez vous rendre, par exemple, demain à une commémoration sur Fukushima, donc un peu contre le nucléaire, à 11h, cours Charlemagne, et du coup, ça dure entre 11 et 13h, et vous trouverez du coup cette commémoration à l'espace à l'est de l'espace Place Nautique au niveau du quai Arlès-Dufour.
Et sinon, demain, samedi 14 mars 2015, le même jour donc, à peu près au même moment, c'est à l'occasion du 4e anniversaire de la Révolution syrienne, l'association Free Syria Lyon organise un convoi exceptionnel composé de semi-remorques et véhicules accompagnateurs. Il partira à 14h de l'entrepôt de Vaux-en-Velin, alors je ne sais pas quel entrepôt, mais c'est pas grave puisque vous pourrez retrouver cette manifestation qui va sillonner de grandes avenues lyonnaises en fanfare, puis rejoindre la place Bellecour vers 17h. Donc au cas où vous n'aurez pas vu la fanfare, eh bien vous pouvez rejoindre tout le monde vers 17h, place Bellecour. Demain demain également, 14 mars, à peu près à la même heure, alors il faudra choisir hein, quand même, il y a de 15h à 16h30 à Terre des Livres, le fameux François Guillemot, ancien musicien des Bérus, et ouais,
chanteur,
mais également universitaire et grand penseur spécialiste du Vietnam, qui en association avec le Centre d'études, c'est sérieux s'il vous plaît, Centre d'études postcoloniales de Lyon, viendra pour commenter l'ouvrage La colonisation des corps, paru en 2014. Le même jour, un peu plus tard, discussion, projection d'abord, à partir de 15h, donc pas vraiment plus tard, puis discussion autour du film No, qui sera projeté dans les pentes à La Plume Noire. Le film No, c'est un film de Pablo Larrain. Voilà. Ensuite, le dimanche 15 mars, donc à la fin du week-end, soirée poésie et contes à la Griffe, donc à la Guillotière. La Griffe fête le printemps des poètes en invitant Vincent et Lionel Perry. Ça sera de 19h à 23h à la Griffe dans le cadre, donc je répète, du printemps des poètes. Et puis un peu plus tard la semaine prochaine, jeudi 19 mars à 18h toujours à la Griffe jusqu'à 23h30, une conférence qui aura pour titre Vivre sous l'apartheid israélien en Palestine occupée. Jeudi 19 mars de 18h à 23h30 à la Griffe, à l'atelier des canulars, le même jeudi, de 19h à 22h, il y aura une rencontre en soutien à la création d'un futur camp antinucléaire à Bure, projet de création de ce camp pour l'été 2015. Bure, c'est en Meuse, et c'est là où l'ANDRA et l'État donc ont comme projet d'enfouir les déchets nucléaires de la France et de l'Europe entière, au nord-est de la France. Donc si vous voulez vous renseigner sur le sujet, et le camp de soutien, c'est de 19h.